Acclamons la parole de Dieu.
Il y a ceci de remarquable dans l'Évangile, que le plus grand discours sacramentel de Jésus, que nous allons entendre pendant tous ces dimanches du mois d'août, le chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean, ce qu'on appelle le discours du pain de vie, le plus grand discours sacramentel de Jésus n'a pas trait au baptême, mais à l'Eucharistie. Discours interrompu par des questions, des réactions d'auditeurs qui sont dépassés par la grandeur du propos, comme nous pouvons l'être, comme nous devrions l'être, devant la grandeur du mystère, le mystère de la foi, le mystère de la messe. Dépassés en tout cas, probablement davantage que par le baptême, quelle que soit la continuité des deux. Par notre baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. À charge pour nous de faire vivre cette grâce, de la rendre actuelle, agissante, comme nous le faisons ce matin, comme nous le faisons le dimanche, en venant à la messe. Le plus grand discours sacramentel de Jésus n'a pas trait au baptême, mais à l'Eucharistie. Et les apôtres l'ont bien compris, qui ont choisi dès la Pentecôte d'offrir le baptême. C'est l'expression que le catéchisme emploie. D'offrir le baptême à quiconque croit en Jésus. Et le catéchisme reprend ce qui était le vocabulaire de l'époque, juif, craignant Dieu, païen. Offrir le baptême. L'Esprit Saint, c'est le don de Dieu. Et quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit, et on peut être d'ailleurs étonné par la facilité et la rapidité avec laquelle les apôtres baptisaient. Il y a l'histoire, par exemple, d'un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, ce qu'on appelle l'eunuque de la reine d'Éthiopie, qui s'en retournait de Jérusalem, qui était sur son char, qui essayait de lire le prophète Isaïe, qui ne comprenait pas. L'Esprit Saint envoie le diacre Philippe le rejoindre sur son char, lui expliquer en deux mots de quoi il s'agit. Et que dit cet homme ? Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Le catéchisme dit que pour être baptisé, il suffit de croire en Jésus. Et il cite un autre passage du livre des Actes des Apôtres, où là c'est saint Paul qui va baptiser le geôlier, son gardien de prison, après avoir été délivré miraculeusement. Saint Paul lui dit... Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et le récit le dit, le geôlier reçut le baptême sur le champ, à l'instant même. Alors pourquoi est-ce devenu si difficile pour les adultes qui viennent nous voir? Pourquoi avons-nous fixé pour les adultes une durée de préparation de 2 ou 3 ans, qui en rebute plus d'un, et qui peut nous sembler en contradiction avec et la nécessité du baptême et le commandement de Jésus. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les et apprenez-leur. Et pas apprenez-leur et baptisez-les. Il y a toujours un danger que nous transformions les sacrements en diplômes, que nous fassions passer les connaissances à acquérir avant la grâce à recevoir. Alors, prudemment, le catéchisme explique que devenir chrétien, dès les premiers temps, et d'ailleurs encore aujourd'hui, dès les premiers temps, ça nécessite un certain nombre d'étapes successives, nous le savons, autant de conversions, mais un cheminement, une initiation à plusieurs étapes. Et il ajoute, ce cheminement peut être parcouru rapidement ou lentement. Vous savez, c'est comme dans le sketch, combien de temps ça prend? Un certain temps. Rapidement ou lentement. Alors quel est le critère? Ça dépend de quoi? Ça dépend des personnes? Non, ça dépend des époques. L'initiation a beaucoup varié au cours des siècles et selon les circonstances. Alors pourquoi est-ce que c'est si long aujourd'hui? Parce qu'au catéchuménat, c'est-à-dire au catéchisme des adultes, nous préparons moins au baptême qu'à la première communion, puisque les adultes reçoivent normalement dans la nuit de Pâques ce qu'on appelle les trois sacrements de l'initiation, le baptême, la confirmation et la première communion. Et ce qui est long, et c'est logique puisque c'est le plus long, le plus grand discours sacramentel de Jésus, ce qui est long, c'est la préparation à la première communion. Il n'en demeure pas moins que nous pourrions peut-être nous demander si nous ne devrions pas changer de perspective, si nous ne devrions pas commencer par honorer la demande de ceux qui viennent pour être baptisés, le désir que Dieu a mis dans leur cœur de recevoir le baptême, de les accueillir favorablement pour les baptiser dans des délais quand même assez raisonnables, en les accompagnant ensuite dans la préparation à la première communion, dans la compréhension de la messe, pour laisser la grâce de Dieu agir en eux. Le baptême est un acte de foi, la communion est un acte d'amour. Voilà pourquoi ça prend du temps, un acte d'amour. Et vous savez que vous répondez « Amen » quand je vous donne la communion. Je dis « Le corps du Christ ». Est-ce que vous croyez que c'est le corps du Christ ? Amen. Oui, je crois que c'est le corps du Christ, c'est Dieu lui-même. Mais je sais que beaucoup intérieurement, ils me disent, beaucoup intérieurement, en même temps, font cet acte d'amour en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est beau de faire les deux. L'acte de foi, Amen, oui, je crois. Et en même temps, cet acte d'amour infini, « Mon Seigneur et mon Dieu ». On peut avoir la foi sans avoir l'amour. C'est toujours triste à rappeler, mais il faut le rappeler. Et ce n'est pas nouveau. Saint Paul l'a affirmé dans un des plus beaux textes jamais écrits, l'hymne à l'amour. J'aurais beau être prophète, j'aurais beau parler au nom de Dieu, j'aurais beau être théologien, j'aurais beau avoir toute la connaissance des mystères de Dieu, j'aurais beau être le plus croyant de tous les hommes, j'aurais beau avoir une foi à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que la foi est secondaire. Ça veut dire que la foi est toujours la foi en l'amour. L'Église, dans les premiers siècles, utilisait un terme technique. Elle utilisait le mot de mystagogie, qu'on peut comprendre comme la contraction de mystère et de pédagogie, pour dire que le mystère de la foi s'accomplit dans l'amour. Le mystère de la foi se reçoit en se pratiquant. Si on attend de comprendre ce qui se passe à la messe pour venir, on peut attendre longtemps et passer à côté. Eh bien, cette tension entre la connaissance et l'amour est constitutive de tout ce discours du pain de vie. Nous allons le retrouver au long de ces dimanches du mois d'août, où les auditeurs de Jésus cherchent à comprendre, en apparence, en réalité, ils cherchent à mettre Dieu à leur portée, ils cherchent à maîtriser, ils posent des questions qui peuvent sembler légitimes. Nous avons entendu, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Quel signe vas-tu accomplir ?» Mais le problème qui explosera à la fin, c'est que ces questions ne viennent pas de leur cœur. Ça ne vient pas du cœur. Ce n'est pas une question de bienveillance, c'est bien plus profond que ça. Il dissocie. Il sépare la connaissance et l'amour. On peut être savant sans être amoureux. Et c'est un problème qui est très actuel. Combien de baptisés aujourd'hui, persuadés d'avoir été catéchisés, d'être venus effectivement, d'avoir suivi correctement le catéchisme, d'avoir catéchisé, surtout dans ce quartier s'ils sont passés par l'enseignement catholique, disent « Oh, je connais ». Je connais. Ils ont effectivement, on peut dire, une connaissance de Dieu, au sens où Dieu est une connaissance, comme on l'emploie pour des voisins ou des vagues relations, une connaissance. Une connaissance. Mais pour eux, il n'est pas l'amour. Tout le discours du pain de vie est construit sur l'union indissoluble de la connaissance et de l'amour dans cette approche de la personne du Christ qui est la visée du suprême savoir. C'est ce que disait Maurice Zindel dans la retraite qu'il avait prêchée au Vatican en 1972. La révélation chrétienne qui culmine en Jésus-Christ affirme que ce que vous n'aimez pas, vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi le Christ peut commander d'aimer ses ennemis. Ce qui veut dire d'apprendre à les connaître, pas pour mieux les combattre, pour porter sur eux le regard d'amour de Dieu. Ce que vous n'aimez pas, vous ne le connaissez pas. Il n'y a qu'en entrant plus avant dans la connaissance intérieure de Jésus-Christ, en le priant, en venant régulièrement, dimanche après dimanche à la messe, en recevant, en mangeant son corps et son sang, que nous serons fidèles à l'amour. Comme disait Zindel, il est bien vrai qu'à ce niveau, on connaît autant qu'on aime et qu'on ne connaît plus quand on n'aime plus. On ne connaît plus quand on n'aime plus. Pour aimer, il faut connaître.